prochain épisode 94. Cet épisode-ci, je vais être le seul à faire ça, un petit épisode solo, ce qui est plutôt rare, mais comme les nouvelles en sécurité s'accumulent et sont toujours de toute façon très intéressantes, on ne lâche pas les choses. Donc, commençons avec les Shameless Plugs. On va encore plugger Shawisec, qui est un événement ou un rassemblement de gens à Shawinigan qui font la promotion de la sécurité. Donc, allez consulter leur site web qui est disponible dans les show notes. Ensuite, l'événement Les Affaires le 19, 20, 21 mars prochain qui aura lieu à Montréal où deux de nos podcasteurs résidents qui est Damien et Steve Waterhouse vont faire une présentation à cet événement-là. Ensuite, le 28 mars, le Québec Sec, où il y aura l'enregistrement du 100e épisode de la French Connection. Donc, si vous voulez nous rejoindre et participer avec nous à l'enregistrement, vous êtes très bienvenus. Les informations vont être disponibles sur le site québecsec.ca très prochainement. Et finalement, il y aura le Sécure le 8 avril prochain, qui s'en vient aussi énormément. Il existe encore des codes rabais disponibles un peu partout, même un billet gratuit qui est caché dans l'épisode 75 du podcast. Donc, si vous êtes capable de le trouver, peut-être un petit accès gratuit. Sinon, on a dissimulé plein de codes entre 10 et 100% de rabais un peu partout dans nos différents médias sociaux et nos différentes plateformes. Commençons avec les nouvelles. Le Sénat, on va faire une suite un peu sur la fameuse saga Equifax. Le Sénat a écouté les différents plaidoyers de Equifax et sont rendus à émettre des recommandations, du moins des conclusions. Et de celles-ci, l'essentiel du message, c'est qu'on devrait punir légalement l'incompétence en sécurité. Donc, c'est un peu un contexte particulier parce que c'est très bizarre de dire qu'on doit devoir pénaliser l'incompétence. Je sais que Steve a tendance à vouloir mettre en lumière cet élément-là comme étant un élément qui est très pénalisant au niveau de la sécurité puisque l'incompétence a des conséquences très graves, contrairement à d'autres secteurs où les conséquences sont négligeables ou du moins moins perceptibles, disons. Donc, à ce moment-là, est-ce que le gouvernement américain va vraiment bouger pour réussir à contrôler ou à limiter ce genre d'événements-là dans le futur? Ce sera à voir, mais c'est sûr que beaucoup de compagnies sont également dans la même posture que Equifax parce que les priorités ne sont pas toujours alignées avec la protection, mais sont alignées avec d'autres incitatives business. Donc, c'est peut-être au gouvernement américain de modifier ce type de motivation-là pour favoriser la motivation vers la protection des informations des personnes. Et un peu comme on a constaté avec Sarbanes Oxley, où on a criminalisé ou pénalisé les hauts gestionnaires sur fait de divulgation correcte. À ce moment-ci, peut-être que j'avais déjà mentionné auparavant que ce serait peut-être bien qu'il y ait un cadre réglementaire qui permette de faire un élément similaire où on est capable d'au moins tenir criminellement responsable les hauts gestionnaires. Puis dès lors, à ce moment-là, on va voir vite disparaître tout le laisser-aller qui va avec ce genre de choses-là. Suivant avec la nouvelle suivante, suivant avec les nouvelles suivantes, c'est comme ouf. Le General Accounting Office, le GAO aux États-Unis, a énuméré une liste de risques de sécurité de très haute importance au législateur, encore une fois, pour aider le législateur à prendre des décisions adéquates puis mettre les bonnes responsabilités à bonne place, mettre les bonnes mesures. Ça va être très intéressant de voir ça, comment ça va évoluer à l'avenir. Là. Et comment le législateur va réussir, en tout cas, moi, dans ce cas-ci, le législateur américain va réussir à passer d'un contexte de pur Far West à un contexte un peu plus réglementé, un peu plus composé en Europe, entre autres. Et continuons avec le Journal Accounting Office. En fait, une autre recommandation au Congrès dans ce cas-ci pour la protection des renseignements personnels qui, dans un contexte américain, sont largement moins protégés qu'on peut connaître dans d'autres législations. Les Européens étant dans le summum, le Canada est tirant de la passe, mais peut-être pas autant que les Américains à ce moment-là. Donc, c'est intéressant de voir que les organes de vérification du gouvernement américain sont là pour remettre de l'emphase sur les différents problèmes d'utilisation des informations de privées des gens, qui à ce moment-là vont être capables de peut-être mieux cadrer, mieux cibler ces différents éléments-là. Nouvelle suivante, la NSA vient de rendre disponible le décompilateur Gindra, qui, en tout cas, la prononciation est un peu louche, mais d'un point de vue open source, fait qu'on est remettre dans les mains de tout le monde, de quiconque veut s'essayer ce genre de choses, un outil gratuit qui, selon les différents commentaires que j'ai pu voir, parce que je n'ai pas encore utilisé, et je dois dire que ça fait quand même quelques années que j'ai pas fait de décompilation, fait que j'étais peut-être un peu rouillé. Mais ça vaut peut-être la peine que moi-même je laissais cet outil-là. Mais en tout cas, du moins, ça met dans les mains des gens, des gens curieux, des outils sophistiqués, puissants, qui permettent de finalement se familiariser et peut-être développer des compétences en décompilation. Et éventuellement, je pense dans un épisode précédent, on avait discuté justement de cet aspect-là. Pour la NSA, ça devient un outil de recrutement puisque les personnes qui connaissent bien le fonctionnement de ce logiciel-là sont nécessairement avantagées pour trouver un emploi à la NSA ou dans quelconque compagnie en cybersécurité. Et on est vraiment dans un élan de nouvelles gouvernementales. On va aborder que le gouvernement américain est en train de développer une nouvelle approche pour les codes de sécurité d'un point de vue américain, puisque à l'heure actuelle, ces codes-ci sont très, très longs à obtenir et à certains égards, limitent la capacité du gouvernement américain à embaucher des gens compétents en cybersécurité. Donc, de redévelopper la plateforme viendrait ainsi accélérer la capacité de recrutement et de pouvoir rapatrier dans la fonction publique américaine des gens d'une extrême compétence qui vont pouvoir rehausser la qualité de la sécurité des infrastructures, ce qui est en soi une excellente chose. Et dans la même lignée, il y a une approche de ce qu'on appelle, en tout cas en anglais, c'est du reskilling, de la réinsertion peut-être d'anciennes personnes pour les aider ou de personnes qui veulent apprendre des habiletés nouvelles en cyber. De pouvoir permettre ce genre de choses-là. C'est une initiative qui est, ma foi, très intéressante, que je crois que la plupart des entités gouvernementales à travers le monde devraient imiter, justement parce qu'on a une crise importante de gens compétents en cyber. Donc, c'est déjà une approche que je trouve fort intéressante que le gouvernement américain puisse mettre à la disposition de ce genre de choses-là. Fait que c'est des choses qui vont s'en aller en grandissant et ce sera très intéressant de voir le nombre d'initiative de la sorte qui va aider la capacité d'embauche des gouvernements. J'espère que le gouvernement du Canada va emboîter le pas sur ce genre de choses-là. Et encore, en tant qu'à parler d'embauche, le département de la défense américaine accélère l'embauche de spécialistes en cyber parce qu'ils ont des besoins encore même plus criants que les emplois, la plupart des organes gouvernementaux. Mais dans ce cas-ci, ils ont trouvé des façons d'accélérer le processus, mais il demeure qu'ils sont dépendants du processus d'accréditation des codes de sécurité, donc ça ralentit énormément les processus d'embauche. Et donc, encore on continue avec le gouvernement américain, mais cette fois-ci pas au niveau de l'emploi puis des perspectives d'emploi. Le Cyber Command semblerait réussir à bloquer des trolls russes pendant les élections de 2018. Donc, si tout ça s'avère vrai, parce que je assume que la nouvelle elle est légitime et vérifiée, c'est-à-dire que c'était des utilisations très intéressantes de ce genre de connaissances-là, de ce genre d'habilité-là, pour faire une protection adéquate des infrastructures critiques dans un sol souverain, qui dans ce cas-ci est américain, mais chaque sol souverain est intérêt à protéger contre n'importe quelle menace, ont tendance à pointer les Russes davantage que les autres, ou les Chinois. Dans ce cas-ci, effectivement, oui, mais c'est peut-être pas les seuls, ils sont plusieurs à avoir les outils, les capacités. Donc, c'est très important à retenir, et on va avoir un épisode avec Karine Gagnon qui justement va nous aborder certains aspects de ces groupes étatiques qui ont d'énormes moyens et qui sont capables de faire ce genre de choses-là. Et en même temps, moi, ce que je trouve très intéressant de diffuser ce genre de nouvelles-là, et c'est pour ça que je le relaie, c'est que ça a un effet dissuasif parce que les gens constatent que il y a des forces réelles qui sont en place pour intercepter et limiter les éléments néfastes qui pourraient s'attaquer aux infrastructures jugées critiques et un peu moins critiques aussi à certains égards. IBM X-Force vient de sortir son rapport de menace qui appelle Threat Intelligence Index, et essentiellement, il en ressort que les attaques de type rançon logiciel vont être tendance à être à la baisse dans les prochains mois et prochaines années pour laisser la place à du crypto-jacking et des compromissions par courriel d'entreprise qui s'apparentent davantage aux campagnes de phishing. Donc, c'est intéressant de voir cette migration-là puisque nos efforts devront être conséquents pour accueillir dans des endroits sécurisés ces gens-là qui voudraient faire du mal à nos entreprises ou ministères et organismes. Le suivant avec un autre, enfin un autre suivi sur la sécurité blockchain. Pas tout à fait suivi, mais en tout cas, la réflexion sur le blockchain, comme quoi il n'était pas un protocole foolproof qui permet absolument de tout protéger contre n'importe quel genre d'attaque, mais une approche, quand elle est bien installée, bien réputée, de pouvoir mieux protéger l'information. Donc, il y a eu des recherches qui se font sur, entre autres, sur la règle du 51%, qui permet de rebalancer un cluster de façon très, très différente par rapport à comment il a été initialement. Donc, ce serait à voir comment tout ce genre d'éléments sécurité sur ce qu'on a souvent clamé, le fait comme étant le Klondike, pourra se matérialiser. Je connais quelques compagnies qui fonctionnent dans cet univers-là et au lieu de faire un hype sur le fait qu'ils utilisent du blockchain pour leurs affaires, ils font juste spécifier que ça s'intègre dans un workflow beaucoup plus grand et beaucoup plus réfléchi pour arriver à ce genre de choses-là. Avant-dernière nouvelle, c'est le DNC, le Democratic National Committee, je crois, vient sortir un nouveau checklist pour leurs candidats, ce qui est une excellente idée parce que ils seront probablement la cible d'énormément d'attaques pour réussir à donner de l'information. Donc, il explique entre autres comment utiliser un gestionnaire de mot de passe, comment ne pas utiliser des comptes, tous les mêmes mots de passe partout, et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant de voir que d'un point de vue américain, il y a un effort réel sur la sensibilisation des élus, ou des, en tout cas, du moins des futurs élus, pour s'assurer qu'ils mettent des mesures d'hygiène minimale, de sécurité, pour éviter un peu des scandales, comme il y a eu en 2016, où Hillary Clinton s'est fait sensiblement voler toute sa base de données de courriel, et ce qui a créé une situation assez embarrassante, et je pense qu'il a contribué à sa perte des dernières élections. Mais qui sait, c'est toujours plus facile à analyser à posteriori. Puis mon opinion vaut ce qu'il veut dans ce contexte-là. Finalement, dernière nouvelle, le fameux wallet du président qui est décédé, le wallet de Bitcoin qui était décédé, il semblerait que, selon les différentes enquêtes qui ont été menées jusqu'à présent, ce portefeuille-là, le portefeuille froid, est utilisé pour stocker de façon permanente les informations serait vide. Ce qui laisse penser que tout ça deviendrait plus une fraude qu'un simple accident qui limite un de nos collaborateurs à participer et à permettre de pouvoir faire des choses intéressantes de ce côté-là. Donc, ça terminerait l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme toujours, si vous avez des questions, les différentes plateformes courriel, médias sociaux sont disponibles pour vous, interagir avec nous autres. Donc, Des questions seront répondues. On a beaucoup de plaisir de discuter avec vous sur ça. Over and out.